l'auteur, parce que c'est la vie qui va être communiquée, c'est la parole. Amen. Gloire de son Seigneur. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, on est heureux de retrouver chacun. Voilà, moi j'ai fidèle. Amen. Simplement, pour l'illustrationnement, ceux qui arrivent en retard, veillez à ne pas mettre votre véhicule à un endroit où il va gêner d'autres véhicules. Et bon, j'ai volontairement laissé ma propre voiture extérieure pour vous montrer l'exemple. C'est-à-dire que s'il y a une place, vous avez laissé une place, elle ne suffisait pas, que vous pouvez stationner à l'extérieur sans problème. Mais parfois, les voitures ont été mises là, ils aiment ceux qui veulent partir. Et en plus, c'est une issue de conduite. De même, on ne rajoute pas de chaises, je l'ai déjà dit, pour des questions de sécurité. Voilà, Dieu nous aide à discipliner. Alléluia. On va lire dans Actes des Apôtres, hein, chapitre 2. Verset 44, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44. Enfin, je précise aussi que dimanche prochain, mon épouse et moi-même ne serons pas parmi vous, nous serons à Montargis. Voilà, Dieu bénira les deux assemblées. Et au-delà, c'est bon. Acte 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assis du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et louant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 4, verset 32, chapitre 4, verset 32, on retrouve certaines choses qui ont déjà été précisées dans ce premier passage que nous avons lu. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce se posait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Amen. Voilà. On dit que le signe initial concernant le baptême de l'Esprit, c'est de parler en langue. Et je crois en tout cas qu'une des choses qui résulte du baptême de l'Esprit, c'est la communion fraternelle profonde.
Amen.
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 On voit que, en conséquence de cette effusion du Saint-Esprit, il persévérait dans la prière, dans la fraction du pain, dans la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi dans la communion fraternelle. Une communion telle que, peut-être ça nous paraît comme un idéal difficile à atteindre, mais ils l'ont vécu. Alléluia. Et au fond, je crois que la communion fraternelle est un signe. C'est un signe. Jésus n'a-t-il pas dit, aimez-vous les uns les autres, à
Amen.
ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Amen.
Quelqu'un peut entendre, peut parler en langue, c'est un signe. Mais à mon sens, c'est insuffisant. Par contre, s'il trouve une véritable communion fraternelle, il va dire, là, il y a quelque chose, Dieu est là. Alléluia.
Amen.
Amen. En
Amen.
tout cas, c'est ce qui caractérise cette Église, et je crois que c'est ce que Dieu attend, la communion fraternelle honore Dieu. Vous savez que Dieu aurait voulu qu'Israël soit finalement cette nation où règne cette solidarité, où règne cette communion. Israël a échoué à cause du péché. Certains diront, oui, mais ils n'avaient pas non plus la même effusion du Saint-Esprit que nous. Soit, mais sommes-nous certains qu'avec l'effusion du Saint-Esprit, aujourd'hui, nous fassions beaucoup mieux? Et nous devrions pourtant. Parce que nous nous recommandons du Saint-Esprit, mais est-ce que nos vies témoignent que le Saint-Esprit agit en nous? Et parmi les choses que nous devons trouver, c'est cette solidarité cette communion, cette unité. J'avais médité ce beau passage ce matin, et je disais, vous ne le direz pas, le Seigneur conduit les choses. Alléluia. Nous sommes destinés à être un. Amen. Ce qui découle du baptême de l'Esprit, c'est l'unité d'Église. Alléluia. Les hommes ont cherché à créer une unité à l'occasion de la tour de Babel. Ça, ce sont les hommes qui cherchent à créer une unité. Mais nous, nous n'avons pas à la créer. Elle est par le Saint-Esprit. Si nous avons été remplis du Saint-Esprit, nous sommes unis.
Amen.
Et oui, l'apôtre Paul nous dit que nous devons maintenir, nous efforcer de maintenir l'unité de l'Esprit. C'est-à-dire que dès lors que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons été baptisés, Saint-Esprit, pour former un seul
corps.
Alléluia. Un seul corps. Et l'unité doit être là. Et si l'unité n'est pas là, même si chacun se revendique du Saint-Esprit, il y a quand même un problème. Le Saint-Esprit ne divise pas, il assemble. Et donc, c'est vrai qu'il y a des efforts pour maintenir cette unité. Et cette unité, elle nous a été accordée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons été immergés dans un seul esprit pour former un seul corps, 1 Corinthiens 12, verset 13. Je pense que c'est utile aussi de dire que la Sainte Cène évoque la communion avec le Père, avec le Fils, et la communion de l'Église. Si nous prenons la Sainte Cène sans qu'il y ait la communion, c'est pas bon, hein? Ça peut même nous attirer des problèmes, nous restez pas. Donc, il vaut mieux que nous soyons en paix les uns avec les autres, et Jésus dit bien qu'il vaut mieux alors régler s'il y a lieu de régler, mais c'est pas simplement de dire je vais demander pardon, mais c'est de chercher, de poursuivre, de vivre dans cette communion fraternelle. Alléluia! Je m'étonne de vivre dans la communion fraternelle. Et je souhaite que nous soyons tous dans cette communion, et que ce soit de progrès. Alléluia. Parce que la communion paternelle est de Dieu, elle est voulue de Dieu, elle honore Dieu, et la Sainte Cène nous parle effectivement d'une communion, communion avec le Seigneur, mais communion d'Église ne veut pas chez les Hébreux, ça représente la famille assemblée, la communion de la famille, et nous sommes une famille. Mais, une famille spirituelle, je m'étonne que des gens se tiennent à l'écart, et n'aient point compris effectivement que Dieu aime la communion paternelle. Je sais que chacun se tient à l'égard parce qu'ils recherchent leur intérêt. Et nous, nous voulons rechercher le bien commun. Amen. Le bien de mon frère, le bien de ma soeur, ça va honorer Dieu. Ça me profitera d'une certaine manière. Et quand bien même, à mes yeux, peut-être, ça n'apporterait rien. Dieu sera honoré, c'est déjà essentiel. Alléluia. Amen. Être en communion avec Dieu implique le fait d'être en communion avec les frères et avec les soeurs. Alléluia. Et si nous manquons cette communion, c'est sans doute que nous manquons la communion avec Dieu. Nous recherchons, poursuivons ces choses. Et je suis convaincu que c'est un signe qui amènera des gens, effectivement, à s'ajouter à l'Église de Dieu, parce qu'ils diront, ici, c'est vrai. On discerne le vide quand ce n'est pas vrai. Quand il y a un discours, mais qu'il n'y a pas des faits, on dit, bon, bah, ok, il faut que nous ayons et que nous vivions ces choses pour la gloire de notre Seigneur. Alors, dans notre deuxième passage, il nous est dit donc que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre et tout était commun entre eux. Alléluia. Et ensuite, il fait référence à un homme, Barnabas, Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il n'a, permettez-moi l'expression, rien fait de plus que les autres. Puisqu'il dit tout autre de ça. Donc, il n'a rien de plus, d'une certaine manière. S'il est cité, ce n'est pas pour le mettre au-dessus des autres, c'est parce qu'il sera question ensuite de lui, eu égard à son ministère. Amen. Mais ce, parce qu'on pourrait, quand on arrive à penser qu'il n'y a que Barnabas qui a fait cela. Mais non, tous. Alléluia. Et Barnabas, donc, lui-même a fait ces choses, et on le cite parce qu'on va reparler de lui. Et la Bible nous dit qu'il avait un surnom. En réalité, il s'appelle Joseph. Mais il était surnommé par les apôtres. Ce n'est pas lui qui a dit « je me surnomme comme ça ». Ce sont les apôtres qui l'ont surnommé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont observé quelque chose chez lui qui est essentiel, qui le caractérise, qui est déterminant, son ADN. C'est quelqu'un qui encourage. C'est quelqu'un qui exhorte. C'est quelqu'un qui console. Alléluia. Donc, évidemment, le nom qu'on lui a attribué correspond à son identité, à ce qu'il est sur le plan spirituel, à ce qu'il communique à l'Église. Et je me suis posé cette question. Quel surnom, chacun peut se la poser, quel surnom pourrait-on me donner? Quel est l'intérêt de ce que je dis? Non pas le surnom que je voudrais me donner, c'est-à-dire que quelqu'un me dira, oh, ben, sans problème aussi, je suis des exhortations. Et je me dirais, quel surnom? Est-ce qu'effectivement, on peut nous attribuer un tel surnom encourageant de dire c'est quelqu'un qui exhorte, qui encourage, qui fait du bien à l'Église? Quel surnom? J'ai cette main. Il y en a un qu'on retrouve dans toutes les sphères, même dans les églises, ça fait des rageux. C'est un révélateur, mais ça peut être ça, peut-être quelqu'un dira. Je souhaite qu'à chacun de nous, il puisse être accordé par raison un surnom révélateur de ce que nous sommes, quelque chose de simple, pour dire ce qui caractérise ce frère, cette sœur, c'est le bien. Alléluia. C'est le bien qui est procuré. Amen. Sommes-nous de ceux qui savent encourager? Alléluia. Qui savent consoler, qui savent prendre soin des autres. Amen. Ne pas venir ici simplement pour être béni eux-mêmes, mais pour être bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. Sommes-nous les uns les autres des fils, des filles de consolation, d'exhortation, d'encouragement. Amen. Alors on va lire, on va faire quelques lectures. Acte 9, verset 26, pour suivre un petit peu ce Barnabas. Acte 9, verset 26, Saul s'est converti à Dieu, et les disciples à Jérusalem, ils ont des questionnements, ils se disent, c'était qui t'étais, il y a vraiment eu un changement. Acte 9, verset 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous se craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Tous avaient toutes des craintes. Barnabas qui a observé, il a su observer, il a vu qu'il y avait un vrai changement chez cet homme Saul, que c'était réellement devenu un disciple et un serviteur de Dieu. C'est lui qui va l'accompagner, c'est lui qui va tranquilliser les disciples, c'est lui qui va leur dire on peut, vous pouvez lui faire confiance. Alléluia. Il a su observer. Et moi, j'ai mis la question du jeu des prières et une lecture par notre frère où Dieu dit qu'il a entendu le bruit et qu'il est descendu voir. Dieu n'a pas besoin de descendre pour voir. Mais finalement, au travers de ça, il y a plusieurs enseignements, mais il y en a au moins. On entend un bruit, pour autant, il faut vérifier. Il faut savoir vérifier. Barnabas ne va pas recommander Paul sans savoir qu'effectivement, on peut lui faire confiance. Il a observé. Après, il n'a pas besoin de 1000 années pour pouvoir dire cela, bien sûr, mais il a quand même examiné. Alléluia. Et il a su examiner, et heureusement qu'il a su l'encourager, parce que peut-être Saul serait resté à l'écart, en tout cas on aurait perdu du temps, mais lui a su effectivement examiner, intervenir et dire aux disciples, vous pouvez avoir confiance, il y a eu une vraie transformation, il y a eu une vraie régénération, il est vraiment né de nouveau, c'est un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Il sait observer, il sait faire confiance. Alléluia. Acte 11. On va un peu plus loin, l'acte 11, verset 22. Il nous a dit qu'il y a une église qui est naissante à Antioche. Acte 11, verset 22. Et il nous a dit que le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il eut vu la grâce de Dieu s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Alléluia. Quand on a su qu'il y avait une église qui se développait à Antioche, on a dit, il y a quelqu'un qui a les compétences pour encourager cette église, pour l'exhorter, pour lui faire du bien, c'est...
Alors on va l'enlever.
C'est déjà accompli. Vous voyez, il y a un petit témoignage vis-à-vis de l'église de Jérusalem, qu'on sait que cet homme est un homme de bien, c'est vraiment un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qu'on peut envoyer, c'est un homme qui va être une bénédiction pour l'église d'Antioche. Je souhaite que l'église de Sens soit composée uniquement d'hommes et de femmes de bien.
Amen.
D'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Très remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. On sait qu'on peut lui faire confiance. Et c'est ainsi qu'on l'envoie dans cette église. Et Dieu sait aussi qu'il peut accorder toute confiance à Barnabas, et ainsi de pas. Et au fond, Barnabas déjà va se rendre compte que le travail est considérable. Et il va donc, effectivement, il nous a dit verset 25, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena en Antioche. C'est-à-dire, il y a beaucoup de travail, je ne peux pas tout faire tout seul, j'ai besoin d'être assisté, j'ai besoin d'être accompagné. Et nous avons besoin d'être accompagnés. Alléluia. Et Barnabas dit, il y a quelqu'un, je sais, je vais déjà recommander une chose. Je peux maintenant demander qu'il vienne avec moi. Paul va venir m'accompagner. Alléluia. Alléluia. Pour faire un travail dans cette église d'Antioche, afin que cette église se développe selon la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
D'avoir associé les autres. Amen. Il se rend compte qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Et il faut donc être accompagné. Il faut quelqu'un de confiance. Et je souhaite encore une fois dans l'église, il y a tellement de confiance par l'Église, on va être obligé de faire un travail considérable parce qu'il y a tellement de bons ouvriers. Amen. Et bien avec Dieu. Ou est-ce que vous simplement vous êtes spectateur? Je préfère que ce soit un lecteur. Alléluia. Et on sera acteur de Dieu parce que Dieu va se servir de nous et c'est Dieu qui sera glorifié.
Amen.
Alléluia. Et ce duo, finalement, qui est formé ainsi, eh bien, à un moment donné, vous connaissez ce passage de l'Écriture où l'Église d'Antioche est dans la prière et Dieu, le Saint-Esprit, va intervenir et va dire, mettez-moi. Barnabas et Paul. C'est Barnabas qui est cité à ce moment-là le premier. Là, ça va changer. Mais Barnabas, c'est lui qui, d'une certaine manière, est le leader. En tout cas, mettez-moi à part Barnabas. Et Paul, pour l'œuvre laquelle je les ai appelés. Je note au passage que cette église d'Antioche, elle est tellement bénie de la grâce de Dieu qu'il nous a dit, vous pourrez lire Acte 13, verset 2, il y avait des prophètes et des docteurs. Il y avait des ouvriers qui se levaient dans cette église. Alléluia! Vous voyez, d'autres ouvriers qui se lèvent dans l'église de Sens. Amen. Des prophètes, des docteurs, des évangélistes. Alléluia. Et puis s'il y en a beaucoup, bah, Dieu dit, vous en avez déjà pas mal, vous allez en envoyer une mission. Et j'ai même décidé que ce serait Barnabas et Paul. Oh, bah non, Seigneur. C'est eux qui nous ont fait tellement bien pour ne pas les laisser partir. Pour les laisser partir quelqu'un d'autre. Et non, Dieu dit, bah, ça y est, ils ont mis en place des choses, c'est bien organisé. Il y a trois jours d'ouvriers, mais il y en a d'autres. Eux, maintenant, ils sont à part pour aller exercer un travail de missionnaire. Alléluia. Prions et désirons ardemment que dans l'Église, il y ait des ouvriers qui se lèvent. Alléluia. Dans la diversité des ministères. Afin que l'Église soit non seulement bénédiction pour la ville, mais je crois que Dieu veut que l'Église soit bénédiction pour les extrémités de la terre. Alléluia. Si un jour notre Église envoie un missionnaire, il est parti, c'est moi, j'étais bien. J'ai voulu qu'il parte pour aller en mission. Bon, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le million de voir le Seigneur, mais voyez que Dieu peut susciter des choses remarquables. Et Dieu a un projet, et le projet, c'est de saluer les âmes. Amen. Alors, ils sont partis, Barnabas et Paul, en mission. Ils ont été bénis, ils ont béni. On va lire maintenant acte 16. Verset 36. Verset 15. Voilà. 15, verset 36. Acte 15, verset 36. Ils sont revenus, ils ont rendu compte à l'Église de la grâce de Dieu qui reposait sur leur ministère de missionnaire, d'évangéliste, de pionnier, d'apôtre. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pourquoi, en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener avec aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif, c'était chauvillant, pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les pères à la grâce du Seigneur. Deux hommes remplis du Saint-Esprit, ils se disputent. C'est triste. Et finalement, c'est arrivé. C'est arrivé. Ils n'ont pas, vis-à-vis de quelqu'un, la même perception des choses. Barnabas dit, pour redonner confiance, il nous a lâché, mais on veut lui donner une deuxième chance, et Paul dit « niet ». Et vous avez compris que Paul avait pris l'ascendant. Hein, c'est Paul qui prend l'initiative, il a pris l'ascendant sur Barnabas, et je ne sais pas si c'est pour ça qu'il dit « c'est mon chef ». Marc, de côté. Et Barnabas, c'est l'homme qui encourage. Alléluia. Paul aurait dû se souvenir, d'ailleurs, qu'il avait été lui-même au bénéfice de l'encouragement de Barnabas. Parfois, on est au bénéfice de l'encouragement de plusieurs, et on ne sait pas soi-même finalement le faire. Certains ont été au bénéfice de la prière, je ne les vois pas prier avec nous. Je dis, c'est quand même bizarre. De se dire, oui, moi aussi, je suis là maintenant pour prier pour d'autres, alléluia. Et donc, il y a eu un dissentiment, ça n'empêche pas. Évidemment, c'est pas bien ce qui est arrivé. On est tous conscients de ça. Mais c'est pas parce qu'ils ont commis cette erreur qu'ils vont être disqualifiés ensuite. Ils vont certainement se remettre et se reconvenir. Et effectivement, parfois, on fait parce que les gens sont conduits l'esprit, ils ne devraient jamais commettre d'erreur. Après, ils en ont commis. Ils se sont disputés sévèrement. Et l'Église semble avoir pris parti, puisqu'effectivement, Barnabas est parti, et on a recommandé à la grâce du Seigneur Paul et Silas. Les voilà séparés, et dans le livre des Actes, vous n'entendrez plus parler de Barnabas, parce qu'effectivement, le livre des Actes s'attache au ministère de Paul, mais ça n'empêchera pas Barnabas de poursuivre son ministère et de le réussir. Alléluia! Amen! Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a entre Barnabas et Marc un lien de parenté? En vérité, il y a un lien de parenté. Est-ce que c'est pour ça que, finalement, Barnabas dit c'est un petit peu mon coup? Parfois, ça peut arriver. Hein, on veut favoriser dans l'œuvre de Dieu sa propre parenté. Nous apprenons, effectivement, c'est Colossiens chapitre 4, verset 10, c'est Paul qui écrit « Aristarque, mon compagnon de captivité », ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Il est cousin de Barnabas. Est-ce que c'est pour ça que Barnabas, finalement, veut le favoriser? Personnellement, je ne crois pas. Je crois que c'est par l'ADN de Barnabas de se courir, d'encourager, de consoler. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et j'observe au passage que quand Paul écrit ça, il cite ce Marc dont il avait pensé qu'il était disqualifié, et il dit « Aristarque, mon compagnon de captivité, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. » Alléluia. Alléluia. Et l'on constate donc que finalement, Barnabas a eu raison de tenir tête, si je puis dire, à Paul, et en tout cas de dire, je veux redonner une chance à Marc. Parce qu'on retrouve Marc cité parmi ceux qui sont désormais précieux au service de Dieu. Alléluia. Je souhaite qu'on sache encourager, mais peut-être quelqu'un a-t-il besoin d'être encouragé au milieu de nous. Peut-être quelqu'un qui se dit effectivement, j'ai raté, j'ai loupé, je me sens comme discrédité, je suis disqualifié. Et se dit, je n'aurai plus de possibilité, je n'aurai plus de chance. Dieu, c'est qui nous sommes. Et heureusement que Dieu est le Dieu de plusieurs chances. Sinon, je crois que l'Église serait vide ce matin. Elle serait vide. Vraiment, quelqu'un plus que moi. tellement extraordinaire que je n'ai jamais failli. Dieu n'a trouvé que de la perfection en moi. Donc, ça nous est arrivé, nous sommes nous bien délouper, la supérité de l'auteur, etc. Et on craint parfois aussi le regard des autres. Quelqu'un craint, nous la craint et a besoin d'être encouragé. Eh bien, je souhaite que l'Église soit composée de Barnabas, mais si nous n'y en avons point le temps, vous êtes quand même Barnabas. Pourquoi ce mal-là? Alléluia! Être celui qui encourage. Vous savez, j'ai vu des hommes qui auraient été disqualifiés par d'autres hommes, et parce que certains ont eu le courage spirituel et certainement la conviction spirituelle de dire non, on va lui redonner une chance. Parfois, c'est des ministères remarquables derrière cela. Alléluia! Amen! Amen! Dieu s'en est mis. Alléluia! Marc est d'autant plus établi, certains connaissent déjà bien sûr cette chose, mais dans la deuxième lettre à Timothée, c'est Paul qui écrit, il dit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour le ministère. » 2 Timothée 4, verset 11. « Prends Marc avec toi, amène-le avec toi, car il m'est très utile dans le ministère. » Il est utile pour Barnabas, Paul, alléluia. Et Paul, tu peux dire merci Barnabas. Merci Barnabas. Merci Seigneur. Alléluia. Il m'est très utile. Gloire à Dieu. Prions pour des gens chutés, mais Dieu peut les restaurer, les établir, et peut-être même les amener dans une dimension que nous ne saurions pas imaginer. Parfois, nos fautes et nos erreurs nous ont appris à être défiés de nous-mêmes, à aussi finalement rechercher d'autant plus le Seigneur. Peut-être avez-vous connu ces temps où il n'y a d'autre solution, aucune autre que la solitude face à face avec Christ pour dire là, je ne sais pas comment je peux faire autrement. Mais Dieu est bon.
Alléluia.
Et parfois, le fait d'avoir souffert avec toi de comprendre et d'avoir la gratitude par rapport à ceux qui passent par l'échec, la difficulté, la peine, la souffrance, qui peut-être nous auront déçus et qui dira qu'il n'a déçu personne, c'est que les autres n'ont pas de dialogue. Que Dieu soit béni, le seul qui ne décevra pas, c'est Jésus.
Alléluia.
Il m'est très utile. Et avant de parler de Marc et de dire qu'il est utile, l'apôtre Paul fait un constat terrible. Il dit tous les autres m'ont abandonné. Démas lui-même, apparemment Démas c'est un frère sérieux, c'est un frère sur lequel on peut compter. Il dit lui-même, il est parti. Je suis seul. Amène-moi Marc. Si Barnabas n'avait pas fait confiance à Marc, il restait plus grand monde pour lui. Peut-être qu'ils avaient misé sur les autres en disant waouh, Marc, c'est pas terrible. Mais Démas, waouh! Avec Démas, hein? Et oui, parfois, on a, si j'ose dire, ainsi misé sur quelqu'un et finalement, c'est pas ce qu'on avait prévu. Et un autre se fait dire voilà, lui. Eh oui, mais c'est celui-là que Dieu avait choisi. Alléluia! Alléluia! Dieu pouvait le restaurer, Dieu l'a restauré, Dieu l'a rétabli. Amen! Ce Marc, 1 Pierre, chapitre 5, verset 13, ne cherchez pas. Parce que parfois, les gens passent partout, tout le reste de la réunion, ne cherchez pas ça, qu'ils ne font pas, ils n'écoutent plus rien. Ben oui, mais c'est ça. Et celui qui vient pour les aider, il n'écoute rien non plus, monsieur. C'est vrai. Il vaut mieux à ce moment-là que ce qu'on voit personne, j'écoute, au moins j'entends. Alléluia.
Amen.
Un Pierre, chapitre 5, verset 13, ne cherchez pas. Pierre présente Marc comme son fils. Marc va aussi travailler maintenant avec Pierre. Alléluia. Au moins que celui qui va rapporter les choses que Pierre ne va pas lui-même écrire, mais va dire oralement, celui qui va écrire les propos de Pierre, c'est Marc, l'évangile de Marc. Et oui, ce Marc, il avait abandonné, que Barnabas a su réintégrer, va devenir utile et très utile pour Paul, Aussi pour Pierre, il dit c'est comme un fils. Alléluia. Comme un fils. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est lui qui est l'auteur de l'évangile de Marc. Alors, on va faire une lecture. Allez, vous avez le droit de chercher. Là. Je vous attends un peu. Et là, tu n'as plus pas de. Je vous dis, c'est pas pour chercher. C'est dommage pour quelqu'un passe ensuite, il me reste du temps, enfin, très longtemps à chercher, il n'écoute plus rien. Si quelqu'un d'autre vient, c'est pareil pour m'aider. Voilà, moi, il y a des fois, je dis, je suis plus. Amen. Galates, chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Cephas, c'est-à-dire Pierre, vint à Antioche, Paul dit, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Mais donc, il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à cette place en présence de tous, c'est chaud, hein, pour tout le monde, c'est toi qui es juif, tu dis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voilà. Paul constate que Pierre, finalement, fait preuve de dissimulation d'hypocrisie. Et comme il voit que ça a un impact sur tous les autres, il se dit, je vais pas, on va pas régler ça entre vous deux, je vais dire devant tout le monde. Il faut que vous fassiez bien attention, les frères, à ce que vous faites là. Et il dit, même Barnabas, finalement, se trouvait entraîné. Je dis peut-être Marc, s'il était avec Barnabas. Hein. Mais en tout cas, ça montre encore une fois que de grands serviteurs de Dieu commettent des erreurs. Parfois, c'est la crainte. Si Pierre, il a la crainte des judaïsants, on se dit, quand même, Pierre, l'homme que c'est. Ah oui, mais il y a des moments de faiblesse. Vous n'avez jamais eu des moments de faiblesse?
Oui,
oui. Oui, des moments de faiblesse. C'est vrai, quand on se dit, moi j'ai fait ça tout le temps. J'ai affirmé comme changer, j'ai sorti l'église. Et finalement, je suis en train de faire ce que je n'en ai pas fait. Mais béni soit Dieu, un frère est intervenu. Ça a mis fin à cette dissimulation, à cette hypocrisie. Ça a permis de servir d'enseignement pour tous. Ça. Et ça ne disqualifie pas et ne discrédite pas ces hommes de Dieu. Alléluia. Nous savons que tous les hommes de Dieu ont pu connaître des faiblesses, mais par la grâce de Dieu, ils peuvent aussi être relevés, restaurés, rétablis. Amen. Alléluia. Ils sont aussi pour cela, finalement, parce qu'ils sont humains. Ils peuvent toujours plus comprendre les faiblesses des autres. Alléluia. Heureusement, le Seigneur, qui a revêtu notre humanité sans jamais pécher, peut toutefois comprendre ce que nous sommes. Alléluia. Alors, je vous souhaite effectivement que l'Église soit composée d'hommes et de femmes de bien. D'hommes et de femmes qui savent accorder confiance, qui soient eux-mêmes dignes de confiance. Alléluia. Qui soient là pour encourager, relever, consoler. Amen. Amen. Qu'il y ait cette profonde communion fraternelle, au point que quand les gens viennent, ils disent il y a ici le signe, effectivement, il y a cet amour dont nous parle l'Évangile. Alléluia. Et cet amour, encore une fois, pour qu'il soit parfait, il faut que ce soit l'amour par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous croyons que ça nous a été donné. Encore une fois, si nous avons été baptisés de l'Esprit, c'est afin que nous soyons un seul corps, et afin que ce corps, qui est évidemment le corps de Christ, manifeste les compassions de Christ, manifeste l'amour de Christ. Vous connaissez ce passage où les questions des dons spirituels, et l'apôtre Paul dit que le plus important, c'est l'amour. Voilà. Même s'il y a du bruit, vous savez, vous allez dans un endroit, il y a du bruit, ça ne veut pas prouver que Dieu est là. C'est pas ça, mais s'il y a l'amour, s'il y a l'amour du Saint-Esprit, là vous pouvez dire, je vous prie. Le Seigneur est là. Alléluia. Le Seigneur est là. Et il faut qu'il soit là. Et il faut... Vous savez, il y a des gens, ce sont des choses quand même vécues parfois, des gens, notamment des gens issus de l'islam, ont du mal à s'intégrer ensuite. Si l'Église ne sait pas les accueillir, s'il n'y a pas cet amour, ces gens-là se trouvent exclus de la communion qu'ils avaient avant avec ceux de l'islam et ils se retrouvent dans une communauté où ils ne trouvent pas la contrepartie et se sentent seuls. Il ne faut pas que quelqu'un se sente seul.
Amen.
Amen. Alléluia. Il faut savoir observer, il faut savoir veiller, il faut savoir exhorter, il faut savoir encourager. Et je crois que notre prière ne sera pas de dire Seigneur, donne-moi l'amour. Mais je veux Seigneur, par ta grâce, de développer cet amour, puisque je suis censé avoir reçu. Alléluia. C'est vrai que Jésus dans le commandement est élu. Amen. Et il nous donne la capacité par le Saint-Esprit qui nous a été donné. De même, l'unité, elle est là. Alléluia. Nous devons l'entretenir. Amen. Et encore une fois, si vous pouvez être dans la base pour quelqu'un ce matin, quelqu'un qui a failli, quelqu'un qui se sent faible, qui se sent découragé, qui peut-être se dit, oui, mais est-ce qu'ils vont encore me faire confiance? Ça fait quand même des fois que je suis découragé. Quand on lit les psaumes, il faut toujours le voir, non? Et les psaumes, par contre, ils ne terminent pas tous de façon très optimiste, parfois. Mais ça révèle ce que nous sommes, avec mon faiblesse. Tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, tout enfant de Dieu, il y a des moments difficiles. Et au fond, peut-être simplement, on pourra dire, mais c'était peut-être pas si difficile, c'est moi qui n'ai pas su être fort à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, on peut se retrouver renouvelé par la grâce de Dieu. Amen. Dieu, on a besoin de l'Église. C'est un peu cette petite histoire vraie hein, de cet enfant à l'étage qui dit à sa maman, je veux que tu viennes à côté de moi. Maman, je veux que tu viennes à côté de moi. Et la maman lui dit, mais tu as Jésus à côté de toi. Et moi, c'est plutôt quelqu'un en chair en os à côté de moi. C'est vrai. On a Jésus, mais on a besoin des autres.
Amen.
Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, la présence des autres sera la présence de Christ finalement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans la lettre à Philémon, verset 4 à 7, je vais vous le lire selon la traduction de Darby. Ça concerne Philémon. Paul écrit ceci, « Je rends grâce à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes prières, apprenant l'amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints, en sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard de Jésus-Christ. Car nous avons une grande joie et une grande consolation dans ton amour, parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi. Frère. J'aime beaucoup ce passage. Les entrailles des saints, et ce sont les chrétiens, hein, vous savez. Les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère. Philémon, comme Barabbas, c'est quelqu'un qui fait du bien. Quand il est là, on chante dans le Saint-Esprit, là, l'atmosphère change. J'ai envie de dire, quand Philémon est là, l'atmosphère change. Alors, si tout est selon l'esprit, alors il n'apporte rien de plus. Mais justement, si les gens sont un petit peu découragés, si, quand Philémon entre, on se dit, waouh, ça y est, là, ça va bien finir. La fin sera bonne. Alléluia. C'est la nôtre, si vous voulez envoyer mon thèse, etc. La fin va être difficile. J'espère que c'est une prochaine personne parmi hein. Nous, mais bon, ce sont des réalités. Il y a des gens qui vont arriver, vous détruisez tout. Aïe, 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 oui. Mais bon, même qui sait, dans une situation difficile, il arrive, il va remettre la paix, il va savoir expliquer, il va savoir dire, ça me fait du bien. Je souhaite qu'on soit tous des Philémon. Vous défilez moi. Finalement, ça veut dire agréable. Alléluia. Un homme agréable. Alléluia. Je suis convaincu que l'amour transforme tout. Mais dans l'Église, déjà peut-être, parce qu'il peut y avoir des besoins, des souffrances, etc. Mais aussi pour les gens du dehors. Alléluia. Je crois que c'est fondamental. À ceci, tous les fonds que vous avez ici, Saint Jésus l'a dit après que Judas fut sorti. Judas n'en était pas de cette communion-là. Après qu'il fut sorti, Jésus lui a dit, voilà, je vous donne ce commandement, aimez-vous les uns les autres. Jésus lui va aller à la croix. Et il dit, voilà ce qui va être fondamental pour vous, ce qui va être important. À ceci, tous connaîtront que vous êtes des disciples. Alléluia. Et Jésus sait que ce ne seront pas simplement des disciples, c'est-à-dire des juifs, mais que ce sera une diversité de gens venus de tous horizons qui formeront cette église. Il n'y a pas de la grâce de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on veut être l'Église d'Antioche? L'église entière, comment elle a démarré, vous me direz. Mais finalement, ce sont des gens dispersés, qui avaient dû fuir la persécution, et qui sont arrivés dans cette ville venteuse avec un tout petit carton, avec pas grand-chose, dans le cœur, ça dans et tout. C'est caricature. Vous comprenez qu'ils n'avaient plus rien. Et ils ont quand même parlé de Jésus à des gens qui auraient pu venir pour nous parler d'un Jésus qui est grand, et regarder dans quel état vous êtes. Et ils avaient la joie, ils ont parlé de Jésus. À des étrangers, parce que c'était juif, ils allaient parler à des étrangers, c'était pas courant que cela. Et finalement, une église est née. Alléluia. Et c'est là qu'on a vu que l'église grandissant, il fallait l'être, on l'a appelé, l'église de Jérusalem, ou l'église de Jérusalem a été informée, elle a dit, on va envoyer. Là, ça va être l'histoire. On va pas la recommencer. Mais l'église d'Antioche, petite au commencement, grandit et devient réellement. C'est de cette église que partent les missionnaires. Parfois on dit, c'est Paris, ça doit partir de Paris, c'est la capitale. Et puis les églises à Paris, elles sont méga church. Alors nous, tout petit, hey, quoi, Jérusalem, c'était la maison mère, mais la succursale. Antioche, avoir regardé à ça, les ouvriers se sont levés, et Antioche a béni jusqu'à Jérusalem, parce que dévolu, ça aurait peut-être été beau, mais vous direz. À un moment donné, ils ont envoyé de quoi aider l'église de Jérusalem sur le plan matériel. Ils ont béni l'église de Jérusalem. Alléluia.
Oui.
Parfois, on est là avec nos limites en disant, oh, c'est une petite ville, c'est une petite église, etc. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Et Dieu veut susciter et lever. Alléluia.
Amen.
Mais qu'est-ce que pas après de dire, vous avez vu, on a vu des petits paris, hein. Ou de Jérusalem, vous ne connaissez pas rien. Mais Dieu a demandé que l'Église croit. Manifeste cet amour. Partagez cet amour. On pouvait bien les envoyer. Alléluia. On pouvait les envoyer. Il y avait le Saint-Esprit. Amen. Ne soyez-vous dit le Saint-Esprit.
Amen.
Toujours. Alléluia. Et si peut-être il advient que quelqu'un est failli, ça ne veut pas dire pour autant que cette personne sera désormais définitivement abandonnée par le Saint-Esprit. Mais non, heureusement. Et cette personne se relèvera parce que nous serons là pour l'aider. J'aime aussi ce passage où l'apôtre Paul s'est retrouvé maltraité et les frères sont venus autour de lui. J'aime bien cette image. Il était, parfois je le dis simplement, il était carrossé, complètement carrossé. Il n'avait plus la force de se lever. Ils sont venus, ils l'ont entouré. Alléluia. Ils l'ont entouré. Et voilà qui se lève. Avec tous ses bleus et tout. Les douleurs partout, il reprend le travail. Alléluia. Il a été relevé par Dieu, mais il a été relevé par les frères, par l'Église, par la communion fraternelle. Amen. Tu penses là? Je bénis Dieu, est-ce que nous croyons au Saint-Esprit là ce matin?
Amen.
Et je suis convaincu que nous sommes réceptifs et désireux effectivement de manifester ces choses pour glorifier Dieu et pour voir des hommes et des femmes ajouter à l'Église du Seigneur. Alléluia.
Amen.
On bénit Dieu pour les exemples, mais en même temps me dire ça, ça a été, ça nous montre ce que nous pouvons être et nous voulons être. Alors nous serons peut-être à l'identique après notre homme, mais chacun pour la part qu'il a reçue de Dieu pourra accomplir ce que Dieu a préparé d'avance. Et c'est l'ensemble qui va être harmonieux et qui va réussir. Alléluia.
Amen.
On va prier le Seigneur. Seigneur, on a besoin d'avant, non pas de rappeler qu'ils ont pu être baptisés de l'Esprit il y a tant et tant d'années. Nous savons que ce baptême de l'Esprit implique des choses qui doivent être cela jusqu'au bout, en vérité, que tu nous as immergés dans un même esprit, afin que nous voyions cette Église publique, ce corps, qu'il y ait au milieu de nous cette communion fraternelle, qu'il émerge de notre Église, des ouvriers pour Dieu, et que susciter des ouvriers pour l'Église. Et tu peux solliciter les ouvriers pour aller au-delà, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, ne pas être une église reconfinée sur elle-même, mais se préoccuper d'elle-même, et pouvoir être une bénédiction pour toute la ville, une bénédiction pour la contrée, une bénédiction au-delà. Seigneur, vraiment qu'il y ait cette disposition en nous. Seigneur, s'il y a parmi nous quelqu'un qui a besoin d'être relevé, nous voulons prier afin que celui-ci, celle-là, à relever. Seigneur, si quelqu'un peut-être était dans la tristesse en estimant que pour avoir fauté finalement, il était ou elle était disqualifié,